Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Poulard Affût. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau podcast avec bien sûr l'excellent, mon acolyte, Arnaud Beurdelet. Salut Arnaud.
Salut Raph et bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci encore de m'accueillir pour cette belle émission Poulain Rafute. Vous le savez, c'est le podcast qui rafute le rugby en long, en large et en travers. Celui que vous pouvez écouter dans votre salle de bain, sur votre vélo, dans votre voiture, dans le métro, un peu partout en France et même dans le monde. Je vous rappelle que ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou Apple Podcast. N'hésitez donc pas à vous abonner et à filer 5 étoiles à notre ami Raph Poulain. Ça flattera peut-être un petit peu son ego, même si ça ne remplit pas forcément son frigo. De cette façon, vous recevrez chaque semaine les derniers épisodes directement sur votre smartphone. Raph, je te laisse nous présenter notre invité du jour. Je crois que tu as beaucoup de choses à nous dire. Moi, je dirais simplement qu'on a la chance d'accueillir aujourd'hui un leader du top 14.
Oui, je suis sûr que vous avez tous et toutes, dans vos souvenirs de rugbyman et de rugbywoman, ce type capable de se retrouver après une sortie de boîte compliquée à 30 km de son lieu de résidence, se réveillant à midi dans une station-service sans comprendre le pourquoi du comment il a pu se paumer aussi loin alors qu'il n'habitait qu'à 2 pas de la discothèque. Ce même type capable de fulgurance tant sur le terrain qu'en dehors. Celui-là même qui, sur un défi ou un pari à 50 balles, peut te faire un tour de périph' parisien en moins de 20 minutes en string sur une moto à 3 roues. C'est ce type capable pour 20 euros de te bouffer cul sec sans réfléchir une motte de wasabi grosse comme une balle de ping-pong, sans se soucier du souci gastrique du lendemain. Celui-là même qui est titulaire indiscutable du manger c'est tricher, le leader du cul sec. Bref, vous l'aurez compris, on n'a pas casté un introverti cette semaine. On ne vous parlera pas de stratégico-technique dans Poulain Rafut cette semaine non plus. D'un autre côté, ça n'a jamais été notre spécialité et on ne va pas s'en cacher. Et pas sûr d'avoir un casting 5 étoiles chaque semaine si on vous parlait de cadrage débordement et autres activités à haute intensité. On aime les histoires et ceux qui l'écrivent à grands coups d'humain et de générosité. D'ailleurs, j'ai une petite pensée émue pour Philippe Guillard et mon bon Thomas Glavany, qui avait ce chic et le talent pour nous trouver ces énergumènes adeptes de la galéjade, de la connerie, ces créateurs d'ambiance, pardon, ces créatures un peu spéciales et hors normes qui nous régalent à chaque fois qu'ils l'ouvrent. Il y a un duo qui garde ce cap malgré un sport dont la com est cadenassée par peur d'interprétation, peur de l'image qui sort d'un cadre de plus en plus barbant malgré les fortes personnalités à tous les postes. Ça cloisonne comme pour mieux contrôler les sorties de piste qui sont pourtant le sel de notre cher rugby. Les deux compères, vous l'aurez bien deviné, Nance Ducoing et Jean-Baptiste Dubié, sortent du lot. Les tic et tac de Bordeaux, les ronflants de la Garonne, les bons mecs qui ont l'audace de créer ce petit plus qui fait le buzz et qui régale. Jean-Baptiste Dubié, notre invité, m'avait proposé de faire l'émission en direct du bateau d'un de ses amis à 5000 bornes d'ici pendant ses vacances. Pour une question de connexion, nous avons préféré repousser l'enregistrement, ce qui m'a permis d'aller chercher quelques petits dossiers auprès de ses amis. Boulou, pour les intimes, c'est 8 années passées au Stade Montois et depuis 2015 à l'UBB, c'est surtout plus de sélection avec les Babas qu'en équipe de France, c'est dire l'état d'esprit du bonhomme. Laurent Marty m'a envoyé un petit message super sympa te concernant Jean-Baptiste, je le cite, « J'ai envie d'insister sur le courage de l'homme, il joue à un poste de centre ou d'ailier où régulièrement tu as des molosses à affronter en un contre un, et depuis plusieurs saisons je ne l'ai jamais vu se sortir, bien au contraire. C'est un athlète avec un très bon sens du rugby, mais son courage hors norme m'a toujours impressionné. » Bref, pas grand chose à rajouter sur le portrait. Merci Monsieur Marty, on va pas épiloguer, entrons vite dans le vif du sujet. Bienvenue Jean-Baptiste dans Poulain Rafut, ravi, salut.
Bonsoir messieurs.
Salut Jean-Baptiste. Alors, moi, je ne vais pas partir tout de suite sur le côté troublillon, ce qui semble énormément plaire à Raph. Moi, d'abord, j'aimerais, Jean-Baptiste, qu'on parle un peu de sportif. Je ne te l'apprends pas, comme on en parlait avant de débuter cette émission. Toulouse, enfin battue par l'Union Bordeaux-Bègles. On rappelle quand même que la saison dernière, 4 matchs, 4 défaites hein, pour l'UBB face au double champion de France et d'Europe. Est-ce que c'est un poids en moins dans les têtes? On en parlait avec Emmanuel Arénor de Tille il n'y a pas très longtemps. Emmanuel disait, quand les Français ont battu les Blacks, c'est important, si on les rejoue en Coupe du Monde, de savoir qu'on peut battre cette équipe. Est-ce que pour vous, Bordelais, savoir que vous êtes capable de battre le Stade Toulousain, c'est important dans la perspective éventuelle d'un match de phase finale?
Avec toute proportion gardée par rapport à ce que tu disais d'Emmanuel avec les Blacks, c'est vrai que au niveau de au niveau de notre équipe et de l'année passée et puis de ce qu'on a vécu, c'est vrai que les Toulousains font partie de ces équipes qui nous ont malmenés et qui ont été meilleurs que nous, tout simplement. Et c'est vrai que quand tu enchaînes un peu les défaites, notamment des défaites qui marquent, puisque y a eu deux matchs, deux demi-finales, forcément que c'est bien de renouer avec la victoire. Quand on recommence une saison, c'était important. Donc, c'est vrai que pour nous, on l'avait préparé comme un match hyper important. Je pense que vous l'avez entendu et c'est tant mieux de l'avoir gagné pour le reste de la saison, quoi.
On a l'impression qu'en ce moment, il ne peut rien arriver à l'UBB. On rappelle aussi la performance assez magnifique quelques temps plus tôt sur la pelouse de l'Arena, avec ce 33-0 infligé en 40 minutes. On a l'impression que vous surfez sur une espèce de vague qui n'en finit jamais. Comment t'expliques ce passage qui dure hein, quand même? On rappelle, il y a quelques années maintenant que Bordeaux a une progression assez linéaire, mais là, on a l'impression qu'elle ne s'arrête jamais.
Mais ouais, écoute, on travaille, hein. On travaille beaucoup pour ça. On a envie de réussir. On a connu tellement de saisons, tu sais, avec les défaites encourageantes, tu vois, ce genre de phrases-là. Les saisons, oui, c'est pas mal, mais on a à chaque fois, on était au pied du podium. Donc c'est quand même des choses, c'est quand même des choses difficiles à vivre quand t'es compétiteur, quand tu es dans ce club, quand t'as ce président aussi qui met tout dans cette équipe, donc et dans ce club. Avec tous ses supporters, tout ce qui l'entoure. Donc, oui, on travaille dur pour ça. On a bien commencé notre saison. Enfin, on l'a mal commencé parce qu'on est allé perdre à Biarritz, mais on a su ressaisir un petit peu tout ça et pour continuer un petit peu à évoluer. On a enchaîné un nombre de victoires. Ça a été le record de l'UBB depuis les années où on est en top 14, les victoires consécutives. Et puis là, ce mois de décembre, fin novembre-décembre, ce bloc qui est ultra solide, qu'on a bien commencé. Maintenant, il nous reste encore des beaux morceaux et avant d'avoir une petite trêve à Noël. Mais on part bloc de 5, hein, 5 matchs, sachant qu'on en a 11 d'affilée. C'est histoire de se donner un peu de visibilité, quoi.
Raph, un petit mot. Moi, j'ai envie d'avoir ton sentiment sur l'UBB, Raph, parce que tu parles souvent de l'importance justement de l'état d'esprit d'un groupe, de l'homogénéité, entre guillemets, au-delà, en dehors du cadre sportif. On a l'impression que ce groupe, il fait bloc sur et en dehors du terrain. Est-ce que c'est ton sentiment un peu, Raph, que j'aimerais vous entendre un peu échanger tous les deux à ce sujet-là?
Déjà, moi, l'UBB, on le suit depuis son retour en top 14, donc depuis le début des années 2010. Moi, il me faisait penser un peu à Grenoble, qui faisait toujours des débuts de saison absolument monstrueux et qui, après, explosait à la trêve hivernale. Et depuis l'arrivée d'Urios, et c'est la question que je voulais poser à Jean-Baptiste, depuis l'arrivée d'Urios, quand même, il y a eu un franchissement de cap. On sait que Marty fait énormément pour le club. Je pense que sur les réseaux sociaux, vous êtes le club qui est le plus suivi, notamment sur l'UBB, sur les réseaux sociaux. Enfin, il y a tout un engouement. On a vu Chaban-Delmas qui est plein comme un œuf. C'est quand même assez excitant, quand même. Et puis Bordeaux, qui est quand même plutôt une ville plutôt chouette à vivre, qui a dû changer de Montmarsan, et on va en parler. Mais il y a tout un... Il y a tout un engouement, il y a de la victoire, il y a surtout Christophe Urios, derrière Christophe Urios qui a fait un casting aussi intelligent, et puis il y a des mecs revanchards. Comment ça se passe? Moi, ma question, c'est comment ça se passe avec Christophe? Il a quand même fait des miracles, on va dire oui, parce qu'il a quand même qualifié Oyonnax dans les 6 sur sa dernière saison, il a gagné un titre avec Castres alors qu'on ne les attendait pas. Il a cette capacité à transcender les mecs. Est-ce qu'il y a ce côté un peu paternaliste chez lui? J'ai l'impression qu'il laisse quand même la possibilité, comme je disais, au Troublion d'exister, mais de cadrer. Donc, comment tu le vis, toi, en tout cas, ta relation avec lui, et comment vit le groupe aussi avec un mec comme Urios, quoi?
Et bonne chance pour répondre aux 28
questions. C'est cadeau. Là, on reste sérieux, et après, on switch, hein, parce que tu me l'avais vendu comme un truc...
T'inquiète, on y vient, la prochaine.
Il me reste 5 minutes à me concentrer, et après, on bascule. Donc, c'est une belle phrase, belle question. Christophe, ça... Son point fort et c'est sa plus grande qualité, c'est, je pense, d'arriver à fédérer tout un groupe. Et il l'a montré auparavant. Je pense que c'était la personne idoine pour Bordeaux à cette époque-là. Où en plus, avant qu'il arrive, on termine sur une fin de saison catastrophique alors qu'on avait les cartes en main pour pouvoir se qualifier. Et il est vite intervenu dans le groupe. La saison venait juste de se terminer Et pour nous et pour lui, ça a été catas dans les deux sens. Pour nous, parce qu'on s'est mangé la qualif à peu de choses près, et Castres qui avait fait une fin de saison incroyable et qui s'est écroulé à la fin. Donc, il avait besoin de nous parler. C'est vrai que de suite, ben, il a eu ce discours qui nous a permis, enfin, moi, à titre individuel, alors que je voulais arrêter le rugby après cette fin de saison, à titre individuel, de se dire, bon, ben, écoute, j'ai envie de voir ce qui va nous mettre en pratique, parce que son discours m'a de suite galvanisé, quoi. C'est sa force, arriver à fédérer le groupe, arriver à fédérer les supporters, le club entier. Et c'est vrai qu'en plus de ça, à Bordeaux, il y avait déjà un travail énorme qui avait été fait. Et puis en plus, ben, quand tu gagnes, c'est encore plus facile de fédérer toute une ville. Donc voilà, il est, comme tu disais, paternaliste. C'est un mec qui arrive qui est proche des joueurs, qui garde aussi ses distances, parce que c'est compliqué avec nous, on est vite familier. Mais en même temps, il est aussi autoritaire quand il le faut, notamment dans les périodes difficiles où il a resserré la vis. Il nous avait un peu interdit nos bouffonnades. mais voilà, non, c'est vrai qu'on vit bien à Bordeaux. Quand on gagne, quand on a des moments difficiles, on a un très bon groupe. Et il a su, en fait, nous canaliser et comprendre qui on était réellement. Et tout ça pour nous rendre meilleurs sur le terrain. C'est ça l'intérêt.
Dans ce que tu dis, il y a un truc qui ne m'a pas choqué du tout, hein, parce que j'ai arrêté à 25, mais tu étais presque prêt à arrêter le rugby. Ma question, c'est, est-ce que tu es amoureux du rugby ou est-ce que tu es passionné de ton métier?
Moi, je suis amoureux de... Je suis amoureux, passionné, moi.
Ouais. Parce que tu viens de le dire.
Peut-être, mais moi, le rugby, ça a toujours été un jeu pour moi. Tu sais, avec mes copains, j'ai toujours eu cette chance, en fait, depuis le plus jeune âge, de jouer avec les copains, de gravir des échelons avec les copains, de passer pro avec les copains. Quand j'étais à Mont-de-Marsan, d'intégrer un groupe après à Bordeaux, où il y a un groupe qui s'est formé, il y a pas mal à être arrivé en même temps, et puis à évoluer à titre individuel et collectif. Et du coup, ben, tu vois, c'est une chance, quoi. Moi, je me sens ultra chanceux de vivre ça en tant que métier, mais c'est ma passion, quoi. Je me régale tous les jours. Et aujourd'hui, avec ce temps de chiottes qu'il y a eu, on t'a fait un entraînement dans la boue. Et je me suis régalé, quoi.
Et tu t'es ouvert l'oreille. Et tu t'es ouvert l'oreille aussi.
Fendu l'oreille.
Gens, on est dans un podcast, donc tu t'es fendu l'oreille. T'as failli arriver en retard, mais t'es à l'heure. Et à Mont-de-Marsan, moi j'ai une question, mais qui est un peu plus pas personnelle. Mais j'étais au Racing, moi 2007-2008. Toi, tu perces en 2008, c'est ça? Tu commences en 2008?
Ouais, c'est ça. Je fais mon premier match en 2008. Ouais, c'est ça. Putain.
En top 14.
Top 14.
Non, top 16.
En Pro D2. Pro D2. Premier match en Pro D2. Et tu vois, c'était fin de saison, Mondeux était sûr d'être qualifié, on jouait à Toulon et Toulon était sûr de monter, donc ils ont envoyé les jeunes un peu à l'abattoir.
Ouais.
Mais non, ils ont récompensé les jeunes pour notre saison où on avait été champion, en Krabos. Et du coup, premier match là, l'année 2007-2008, et après j'enchaîne en top 14 parce qu'on est monté cette année-là, quoi.
T'as connu Laurent Travigny?
J'ai connu la trave.
T'as connu la trave.
J'ai connu Laurent Travigny qui nous foutait des coups de pied dans les tibias là, avec ses chaussures pointues, parce qu'on se foutait de sa gueule. Et, il avait les pompes en cuir pointu là, quand il sortait. Et donc, du coup, nous faisait mal un peu, mais il était gentil. Hein.
Bon, la trave. Bon, juste pour recentrer le débat, mais en étant un petit peu caustique, Jean-Baptiste, la dernière fois que le bébé a trusté le fauteuil de leader de top 14, vous avez été coupé en plein élan par le Covid. Beaucoup ont ironisé en disant que vous étiez les champions de France virtuels du top 14. Quand tu vois la montée de la cinquième vague, vous en parlez entre vous d'une nouvelle saison tronquée, ou ça vous fait flipper ou pas?
Non.
Vous pourriez avec les chats noirs.
Non, t'es fou, quoi. Attends, si aujourd'hui on n'arrive pas à maîtriser le truc, autant il y a 2 ans, c'était tout nouveau, quoi. Tout le monde était en panique, on savait pas quoi le faire, même si on a cru et espéré finir cette saison, tu vois, quand on voyait la bulle en NBA notamment, ou des trucs comme ça. Mais là, quand même, donc, pas une seconde, j'y ai pensé, c'est pas possible.
Bon, allez, on va basculer un peu sur les dossiers, notamment parler un peu des Barbarians d'abord, parce que c'est vrai que bon, tu es à Bordeaux depuis 2015, on l'a dit, mais tu as participé un peu à l'évolution du club, tu l'as dit, tu as grandi, tu as évolué, tu as progressé, et tu as été appelé par les Babas. J'imagine que tu en gardes quelques beaux souvenirs, on en parlera plus en détail avec quelques anecdotes que Rav va rappeler à l'ensemble de la France du rugby. Mais toi, est-ce qu'on a le sentiment, quand on a préparé cette émission avec Raphaël, que l'état d'esprit Baba, c'est ce qui te caractérise peut-être le mieux?
Ben, écoute, l'histoire, en fait, c'est que la même année, je suis appelé à un rassemblement équipe de France. C'était à Granville, je crois. Je sais pas loin de la Normandie, ça fait bon.
C'est ça.
Tu vois, je ne connais pas trop le spot. Et du coup, ben ouais, je suis appelé là. Enfin, j'ai jamais été estampillé équipe de France de ma vie. Je me retrouve là. Et en fait, j'étais pas moi, quoi. Je ne me sentais pas trop à ma place. C'est vrai que de suite, j'ai eu un groupe avec mes copains de Monde 2, avec qui je suis très proche. Et je leur ai envoyé la photo de la dotation. Où je me suis pris en photo et le coq sur le cœur, tu vois. Tac! Et en fait, c'était particulier, quoi, avec tout ce qu'il y a autour. Je suis arrivé là et bon, c'est vrai que bon, j'ai fait en plus un stage pourri, j'étais nul, voilà, j'étais pas à l'aise, quoi. Et en fait, j'ai pas été rappelé pour la tournée. Et j'ai eu cette chance incroyable d'avoir été appelé avec les Barbarians, quoi.
On parle de l'année 2017, hein, si je dis pas de bêtises.
L'année 2017, capitaine emblématique, en plus Freddy Michalak. Donc avec une espèce de bande incroyable déjà, donc Fred Michalak et Clem Poitronneau dans l'équipe, mes deux idoles d'époque, tu vois, c'était juste incroyable. Et bon, j'ai vécu 15 jours, je pense que vous en avez parlé un peu avec Marco Tolain la dernière fois, j'ai vécu 15 jours fabuleux, quoi. Fantabuleux.
Dernière question sérieuse, aucun regret finalement de ne pas avoir eu la chance de chanter la Marseillaise et d'avoir une sélection?
Ben, tu sais, après coup, ça aurait été c'était le Graal, quoi, pour moi, d'arriver là après le circuit que j'avais eu un peu particulier, tu vois, d'être passé toujours entre les mailles du filet. Ça aurait été vraiment le Graal, ouais. J'aurais été fier, tu vois, pour moi et pour ma famille, de le faire.
Parce que c'est difficilement compréhensible d'entendre tes propos pour, j'imagine, un jeune joueur de 15-16 ans qui ne rêve que d'une chose, c'est d'être en équipe de France. T'entendre dire que tu ne te sentais pas à ta place, comment tu l'expliques?
Ben, peut-être que, tu vois, je ne sais pas, je ne l'avais pas préparé. En fait, quand j'étais appelé, j'étais sur le cul, réellement, quoi. J'évoluais bien dans mon club et tout, mais voilà, ils avaient appelé un peu les restas, quoi. Donc, on y était allé, en plus avec Nance, tu vois, on se retrouve là, nous, comme de piment. Bon, c'était juste incroyable, mais je ne m'étais pas préparé, tu vois, à ça. Et avec maintenant le peu de recul, le peu de maturité que j'ai pris, je me suis dit, ben voilà, peut-être que je me sentais réellement pas à ma place, tu vois, sur ce truc-là. J'étais pas préparé, je sortais d'un truc. Vraiment, tu vois, ne l'ayant jamais vécu, même en jeune, je pense que ça m'a un peu aussi desservi. Et ça s'est passé comme ça. J'ai pas de regret, parce que je regrette pas. J'ai vécu du coup un truc incroyable avec mes idoles. Mais c'est vrai que bon, voilà, on ne saura jamais si derrière ça aurait lancé quelque chose, je ne peux pas savoir. Mais ce qui est sûr, c'est que j'étais en tribune quand ils prenaient des branlées contre les Blacks avec une bière à main gauche et main droite. Je me suis dit, putain, je suis mieux. On se regardait, je me dis avec Marco Tolain, on est mieux en tribune quand même, non?
C'était la tournée 2018, ça, si je ne dis pas de bêtises, en Nouvelle-Zélande.
Ouais, c'est ça.
Raph, tu voulais enchaîner non, sur
non,
les babas?
Non, mais d'enchaîner, c'est marrant parce que je me reconnais dans ton parcours, Jean-Baptiste, sur le fait de débarquer en fait dans un milieu qui est absolument extraordinaire, qui sort de l'ordinaire. Alors déjà, d'être rugbyman professionnel, c'est extraordinaire. Mais en plus de pouvoir toucher à ces stages de sélection, de pouvoir y toucher, tu dis, mais qu'est-ce qu'on fout là? Tu as 19-20 ans, moi pareil, j'avais pas fait les moins de 16, les moins de 18, les moins de 19, j'étais propulsé dans le bordel. Et t'arrives, et d'un autre côté, heureusement ou pas heureusement que j'ai pas joué ces putains de matchs de l'équipe de France. Il n'y a pas de regret à avoir, mais ça te fait vivre d'autres trucs aussi à côté, notamment les babas, l'état d'esprit des babas, on en a parlé avec Marco, il y a cet état d'esprit. C'est d'ailleurs toi qui balances la vidéo de Marco qui perce le plancher en Afrique du Sud. C'est magique, et c'est cet état d'esprit des babas qu'on aime. Donc moi, j'aimerais juste rebondir sur une anecdote, parce qu'on va rentrer un peu dans le vif du sujet, justement. On a assez parlé de stratégico-technique, mais j'ai une question de la part d'Alex Roumat, en fait, que j'ai, tu vois, comme je te disais, j'ai contacté quand même deux, trois mecs que tu connais un peu. Il me dit, pourrais-tu me raconter l'anecdote concernant son arrivée à Bordeaux, notamment Alex Roumat. Il y a eu un appel de la part de Nance et toi au médecin du club en vous faisant passer pour un proche ou plutôt une proche de sa famille. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé? J'ai la version, mais je ne la dirai pas. Je veux que tu nous la racontes. Avec l'imitation aussi, avec la voix.
J'avais oublié celle-là. En fait, si tu veux, il y en a tellement de trucs, mais que celle-ci, j'avais vraiment oublié. Le petit Roumat, on ne le connaissait pas du tout. Moi, j'avais joué, en plus, il est plus jeune, mais j'avais joué avec les Biarros, donc je connais bien, c'est bien Max Lucup, pour avoir joué avec Chimoun et tout ça. Donc, on apprend qu'il signe à Bordeaux. Et donc, on appelle le doc avec Nance, je ne sais pas ce qu'on foutait, on était en voiture ensemble. Et on l'appelle et on lui dit, attends, on se dit, viens, on appelle le doc et on va créer un truc, t'as qu'à te faire, parce que Nance fait bien la voix de femme. Et il fait, fais-toi passer pour sa mère et tu lui dis que il peut pas venir à l'IRM, tu sais, de début de saison parce qu'il a un problème, il a un problème au niveau du troufion. Tu vois, c'était débile, mais si tu veux, au final, moi j'étais à côté de Nance et je lui ai envoyé deux trois tips et bon, après l'autre il était lancé, si tu veux, et donc il se fait passer pour Valichette Roumat, la maman d'Alex. Et du coup, il lui fait, oui, bonjour, monsieur Monod, oui, bonjour, c'est la maman de... C'est la ma... Il parle pas du tout comme ça, c'est la maman d'Alexandre, oui, voilà, c'était pour vous dire que, en fait, il peut pas faire une IRM parce que, bon, il a vraiment un souci. Et en fait, souvent, en faisant ça, on savait pas, mais on l'a tapé dans le mille parce qu'il est un peu claustro. Et du coup, le doc le savait déjà, et nous, on savait pas. Et donc, il était là, oui, non, mais je suis au courant. Et puis, tu vois, il était là, oui, mais quand même. Alors, tu vois, on insistait. Le doc, ça commençait un peu à lui monter. Et là, il lui dit, non, mais en fait, il a un problème au niveau du trou de balle, au niveau du trou fion. Et là, il était. Donc, il nous a grillé de suite. Et bon, voilà, c'était un petit canular d'Alexandre avant qu'il arrive. Il ne savait même pas que. On ne le connaissait même pas. On avait fait ça d'entrée. Mais ça ne lui a pas desservi, hein, au contraire.
C'est difficile dans un monde de plus en plus professionnel de pouvoir concilier ce genre de blague un peu potache, mais toujours très drôle, et le sérieux qui est inhérent à la rigueur du professionnalisme.
C'est difficile. Disons que quand tu gagnes et que tu joues et que t'es pas trop mauvais, ça va. Et il faut assumer un peu derrière. C'est vrai qu'il y a eu une période, je ne sais pas, c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, où on a eu un...
Rappel à l'ordre.
Ouais, petit rappel à l'ordre. Ouais. Petit rappel à l'ordre, ouais, c'est ça. On perd contre La Rochelle à la maison. Ça avait foutu les rognes à Christophe. Et je crois que dans la semaine, on avait fait un truc. Là, ils nous avaient enlevé, ils nous avaient grondé, quoi. Tout simplement.
Ça ressemble à quoi quand on se fait tirer l'oreille par Christophe Furios?
Ouais, 4 points de suture.
4 points de suture. Fini les bouffonnades. Fini les bouffonnades. Que j'en vois pas. Et non, il disait qu'on a été un peu obligé de calmer. Alors, on sortait nos conneries, mais tu vois, souvent, on calculait quand on les sortait. Parce qu'en plus, il s'était mis sur Instagram, tu vois. Donc, il nous jetait. Et tu vois, on s'envoyait des trucs. Et en me disant, putain, regarde, il a vu la story, quoi, on est cuit. Et donc, parce qu'il regardait. Mais en plus, c'est lui qui regarde, il aime bien ça.
Est-ce qu'il likait?
Je sais pas s'il likait, il likait pas, là. Il likait pas.
Je pense à un truc. Hier, j'ai vu un reportage sur Ferguson, en fait. Et Ferguson qui, en 2000, il va voir Gibbs et qui lui dit « Remets ton petit bouton au-dessus de ta cravate. » Donc Gibbs, tu vois, qui était au début des années 90, qui remet son petit bouton. Et Gibbs qui tourne la tête, Ferguson se barre, il tourne la tête et il voit Cantona arriver avec un espèce de... Mais un costard jaune avec des lattes roses, enfin dégueulasse. Et là, il se dit « Putain, tu vois ce qu'il va prendre par Ferguson. » Et Ferguson va vers Cantona. et le prend dans ses bras et lui dit « Ouais, t'as la classe et tout ». Et l'autre, il comprend pas pourquoi. Est-ce que, pourquoi je pose cette question ? Est-ce que Christophe Furieux, justement, il est comme ça, il fait aussi au cas par cas. Il arrive justement à naviguer selon les mecs, arriver à les titiller, les bouger, les, voilà, les prendre sur l'affect aussi. Parce que tu gères pas un ange du coin comme tu gères un Roumad, comme tu gères un Jefferson, à mon avis.
Non, non, c'est sûr. Bah, après, à force, il commence à nous connaître et… Et puis, ouais, il a aussi, il a cette, voilà, cette, c'est un vrai manager. Je pense qu'il a étudié aussi dans la psycho, tu vois, donc même j'en suis certain. C'est un mec qui a beaucoup bossé, c'est un mec qui comprend les hommes et qui s'adapte aussi aux hommes qu'il a en face. Il ne gère pas Nance Ducouin et Vadim Kobilas de la même façon, même si Vadim est très drôle. Ouais. Il est très, très drôle. Mais c'est juste qu'il parle tout doucement, donc tu ne l'entends pas trop.
Mais avec l'accent, en plus, ça doit être compliqué, non ?
Mais il est très, très drôle. Ouais. Mais c'est vrai que, bah, voilà, il a cette faculté-là un peu à s'adapter par rapport au mec qu'il a en face. Mais c'est vrai que de temps en temps, mais il canalise, il est obligé de canaliser un peu certains.
Une autre question, tu vois, en retour de, de ce que tu as proposé à Marco Tolaine, bien sûr. Donc, c'est Marco qui me demandait si tu pouvais nous dire un peu si tu avais réussi à te remettre de tes émotions après ton émerveillement lors d'une sortie en mer en Afrique du Sud et une rencontre avec des requins après ta rencontre avec des lions lors d'un safari.
Alors, il y a deux sujets là.
Il y a deux sujets, requins et lions. Mais bon,
et lions.
Ça c'est incroyable. On fait une sortie pour aller se baigner avec des requins. Bon, déjà, je n'étais pas chaud du truc. Et bon, c'est Clément Patronneau qui organise. Pff, feu vert, le mec, je le bade, j'y vais à bloc. C'est Clément Patronneau qui a organisé le truc. C'est safety, 100% safety. Et on y va. Donc, je monte dans un bateau. Le deuxième bateau, le boss, le patron du truc était parti en premier. Donc, je m'étais dit, peut-être stratégiquement, c'est pas top là, parce que si on a un stagiaire derrière. Bon, j'y vais. En plus, je tombe avec notre ami Rémi Bonfils, ouais, qui commence d'entrer et qui nous dit, les mecs, je suis un poissard. Moi, je dis, bon, écoute, on va faire avec. J'avais vraiment en plus une bande là, que des grands, que des solides là. Malik Amadash, des mecs qui savent bien nager là. Malik Amadash, Flancard, Bonfils, Herbani, tu vois, les mecs savent vraiment bien nager. Des cailloux. Bon, on avait un beau bateau, tout ça. Et en fait, on a réussi à chavirer deux fois. Les bateaux ont été détruits, quoi. Détruits. En fait, on avait réellement un stagiaire, je pense. Un stagiaire, et il y avait un peu de houle, il fallait passer la barre. Et il n'y est pas arrivé. Donc, première fois, on chavire. Bon, c'était une scène de guerre, quoi, parce qu'il y avait des cailloux. Les hélices dans tous les sens, on était là, mais qu'est-ce que c'est ce bordel? On retourne sur le sable, et là, tu vois, la fille de l'organisation qui vient nous voir, elle nous fait comme ça, like, yeah, everything is okay, it's a go, it's okay, it's okay, we go catch up another boat. Ok, bon, mais on va chercher un autre bateau, on y repart, quoi. Et en fait, on fait le même circuit, et moi, je préviens Antoine, Herbani et tous les autres, je dis, c'est simple, si ça chavire, je saute du bateau. Hein. Là, pas d'histoire. Et bien, on a fait exactement pareil. Bateau qui chavire, donc j'ai sauté par-dessus Antoine. Antoine a voulu sauter, il s'est claqué l'ischio. Et la flanque, et ses 2,048 m, il est resté bloqué sous le bateau. Mais c'était un truc de fou, quoi. Et scène de guerre, les hélices qui tapaient, ça partait sur la pierre et tout. Incroyable, incroyable. Et on s'est dit, mais c'est une blague, on s'est retrouvés, tu vois. Alors Malik Amadash, le gilet de sauvetage, évidemment, il lui allait pas. Mais j'ai dit, allez, viens Malik, essayez de sauver les mecs, des pêcheurs sur le côté qui venaient nous sauver parce qu'il y avait vraiment des vagues, quoi. Et va mettre un Parisien dans l'eau avec des vagues, c'est compliqué.
Je rappelle qu'on est en Afrique du Sud, hein, ça, on n'est pas en Méditerranée.
Tu te dis, à tout moment, tu te fais manger les orteils par je sais pas, un poisson, un requin. Et donc, ben, au final, on n'a jamais vu, j'ai pas vu la queue d'un requin, ni l'aileron d'un requin du séjour. Par contre, on a tué deux bateaux. Et on a gardé vraiment un souvenir. On a fait une photo souvenir qui était géniale, qu'on avait envoyée à Clément Poitronou, justement, pour lui dire merci.
Et le premier bateau a quand même réussi à franchir la barrière ou pas ?
Ouais, ils sont partis devant, tu vois, ils te font deux boucles, ils partent. Ok, bon, c'est facile, on y va, allons-y. Et après, non, pas du tout. Pas du tout.
Et eux ont vu les requins, du coup ?
Eux ont vu les requins, après, ils ont dû revenir parce qu'il a pris un coup de talkie-walkie, le patron, en disant s'il a perdu des ronds. Hein. Les bateaux, ils étaient fracassés. D'ailleurs, j'ai pas récupéré ma GoPro, là, elle est au fond du spot, là.
Il y a
peut-être qu'il y en a un qui l'a récupéré.
Vu que tu parlais d'oseille, Marco me demande aussi si il voulait connaître tes tarifs en tant que curé, voilà, au cas où il souhaitait se marier prochainement. Voilà.
C'est quoi cette anecdote de curé?
Ah, mais ça, c'est vrai qu'on l'a pas sorti, mais ça, c'était magique, ça. En fait, Nance du Coin et Julie du Coin se sont mariés l'été dernier. Et ils m'ont demandé tout simplement de faire la cérémonie en tant que curé. C'était un mariage laïque. Et moi, je suis issu d'une famille chrétienne. Je m'appelle Jean-Baptiste Pierre-Joseph. Tu comprends le truc. Et ils m'ont tout simplement demandé voilà, de célébrer leur union. Et donc, ben, je l'ai fait gentiment, sans trop le dire à mon parrain, parce que mon parrain est curé. Ma mère, elle était, mais tu peux pas faire ça, c'est pas bien. Donc, je l'ai fait, mais dans les règles de l'art, j'ai juste mis une perruque, mais par contre, ouais, on a passé un bon moment, quoi, une vraie cérémonie. Et en termes de tarifs, je suis pas cher. Je suis pas cher. Tu m'invites à manger avant, après, pendant, et puis c'est tout, quoi.
Oh oui, pas de message.
Est-ce que tu as le sentiment, des fois, Jean-Baptiste, d'avoir été trop loin par rapport à ton statut de rugbyman professionnel? Est-ce que tu as le sentiment, est-ce que tu t'es dit une fois, oh purée, là on a peut-être été, on a peut-être franchi la barrière?
Ouais, je pense pas.
Non,
Donc,
ça va?
des fois ça nous est arrivé de dire là on va trop loin. Donc
On
on fait
censure.
voilà. C'est souvent pour pas trop balancer, c'est souvent moi par rapport à Nance qui vais dire là c'est trop.
Détrompe-toi, alors
Mais
détrompe-toi.
lequel?
Non, mais attends, parce que tu imagines bien que je suis allé le voir, c'était le premier
Mais
quand
lui
même.
va te dire l'inverse.
Non, 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 non,
Ah
mais
bon?
là, il a été. Non, non, justement, il a dit je peux pas montrer les images. Par contre, qu'est-ce qu'il me dit? Ouais, il m'a demandé si tu pouvais nous raconter avec tes mots un retour de match sur le parking de Mérignac qui a eu un petit
Ah
accident.
non,
Alors, je
non,
te rassure, alors comme je te disais, on n'a pas la vidéo, il n'a pas osé, donc tu vois, c'est lui qui a mis le frein par rapport à ça, il n'a pas osé envoyer la vidéo par amitié, et on sait que tout ce qui est dans le rugby reste dans le rugby, bien sûr, mais raconte-nous un petit peu ce qui s'est passé. Moi, je le sais, mais les gens ont envie de savoir, maintenant qu'on a balancé le
Ah, il
truc.
te l'a dit.
Non, ben, mais j'ai le message, donc je sais que
Ah, mais
tu
je
vas
peux
me
pas dire
sortir une
ça.
version.
Je
Non, non,
peux
mais
pas
t'es
dire
pas
ça.
obligé
Une version
entre.
édulcorée.
Bien sûr,
Version et
on a
moi.
tous eu des
En
voilà,
garçon intelligent que tu es et qui compte plus de
voilà,
3 mots de vocabulaire, tu dois
adaptabilité,
pouvoir
bien
raconter.
sûr.
Mais bien sûr, je peux le tourner, mais la chute reste critique. C'est critique, ça. Bah après, pour ma défense, on joue une demi-finale avec une prolongation. J'avais joué 100 minutes. On a fait 100 minutes. Ouais, j'avais joué les 100 minutes parce qu'on avait perdu. C'est le match à Bristol en demi de Challenge Cup à la reprise de la pré-Covid, là. Donc, c'est un match quand même engagé. En plus, j'avais Semi en face qui nous a distribué des rentrons tout le match, tu vois.
C'est Miradradra, hein, je
Oui,
précise pour ceux qui nous écouteront.
ouais. Surtout que Nance du coin, alors lui aussi, ouais, j'ai eu Semi toute la semaine. Bon, je restais en contact avec lui. Parce que Nance est parrain de Nance, du petit Semi qui s'appelle Nance aussi, pour son deuxième prénom. Et du coup, il avait eu Semi, et Semi disait, ouais, j'ai pas trop envie de jouer, c'est dur, machin. Première action, il me prend boum d'entrée et boum à retardement du coin. J'étais, ah, ben merci pour tes tuyaux, merci. Et en plus, il a fait un match à feu. Bon, bref, du coup, voilà, j'ai tout donné sur ce match, tout donné. À la fin, j'avais plus d'appétit, donc j'ai pris, tu sais, il nous file les boissons un peu riches, là, et je l'ai eu sur le bide de tout le trajet retour. Et puis on part à l'aéroport, on part, on atterrit à Bordeaux, on prend la voiture, et puis j'ai dû faire arrêter la voiture parce que j'avais une crise de fouiste, comme on dit, une fouiste aiguë. Donc c'est terrible. Donc voilà, j'étais obligé de faire arrêter mon chauffeur. Cet abruti n'a rien trouvé de mieux que de me filmer, quoi, alors que j'étais en détresse totale. Détresse totale, voilà. Je n'ai pas pu même parce que après, bon, c'est moche tout ça. Et en
La
plus,
vidéo est restée entre vous, quand même, Jean-Baptiste, enfin,
il
sûrement, ou elle a circulé sur un groupe WhatsApp de l'UBB?
n'y a pas. Non, bah non, non, mais elle sortira tôt ou tard. Enfin, elle sortira
Après carrière, c'est
dans le
bien.
groupe, hein. Mais tu vois, il me tient un peu, mais j'ai pas mal de dossiers sur lui aussi. Mais là, celle-ci, elle est terrible. C'est terrible.
Mais il n'est pas le seul à avoir des dossiers. Hein. Je crois qu'il y a Jefferson Poirot, Raph, non, qui a balancé aussi un petit
En
dossier,
fait, il y
non?
a tout le monde qui t'a appelé ou c'est toi qui as appelé tout le monde?
Non, 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 c'est moi qui ai appelé. Parce que tu as Jefferson, tu as la particularité d'être excessif 2 à 3 fois dans l'année en soirée. Si tu avais une soirée référence, une soirée type à voilà, à nous raconter, ce serait laquelle? Il m'a rien donné. Il m'a juste livré ça. Et il m'a dit, tu sais, enfin, à mon avis, il saura de quoi je veux parler. Donc une soirée mémorable qui deviendrait avec Jefferson pas loin.
Mais en tout cas, tu sembles être un garçon raisonnable, puisque Jefferson parle de deux,
ah oui, non, non, il
trois
a bien
soirées
dit deux,
dans
trois
l'année.
Fois, et après,
ouais.
il a tempéré.
Déjà,
Alors, c'est, mais tu vois, comme Marty l'a fait très bien, moi, j'ai demandé à ton président, justement, s'il avait deux, trois dossiers à balancer. Il m'a dit, je ne préfère pas m'étaler. Par contre, voilà mon point de vue sur le joueur. Donc, je pense que le joueur fait l'unanimité de t'y filer. Ça, c'est certain. Ce qui te permet, justement, à côté d'être, comme je disais, le bouffon de la bande. Et quand j'ai dit ça sur Nance du coin à Christophe Furios l'année dernière, il s'est énervé en disant, non, bah, attends, Nance, c'est pas un bouffon. Non, je dis non. C'est pas un bouffon, mais dans le jargon rugby, si vous êtes les mecs du fond du bus, quoi. Donc, s'il y a cette petite anecdote qui traîne, s'il y a quelque chose, on est preneur, ça va régaler. Et ça change, t'avoue, le format de Poulain Raffut aujourd'hui, on en est ravis d'ailleurs.
Ah, bon, après, ouais, bon, excessif, ça dépend. Tout dépend où tu mets le curseur. Mais.
Mais vous le mettez assez haut quand même, tous les deux, visiblement,
Quelquefois,
avec
on
Nance.
lâche un peu, mais après, on n'est pas les seuls. Hein. Les mecs, ils sont contents aussi après à côté. Mais alors, attends, je vois pas à quel il veut parler. Enfin. Bon, il y en a une.
Ah ben voilà, ça vient. Il m'a rien dit, hein.
Bon, mais si vous voulez. Non, mais c'est pour vous filer un peu de grain à moudre. On avait fait une soirée là, enfin, c'était un truc délocalisé à l'équipe là, on était parti, on avait la chance d'avoir été invité à Arcachon. Et puis je sais pas, j'étais excité, machin, et je voulais absolument plaquer. Alors c'était notre manager à l'époque, mais on l'avait connu comme coach, tu vois, de défense. C'était Joe Worsley, champion du monde anglais, qui était passé notre manager, tu vois. Mais bon, dans la soirée, j'avais peut-être oublié qu'il était aussi notre manager. Et donc, et tu sais, c'est lui. Tu sais, c'est gros, gros coach de la défense. Et mec, il a des doigts. C'est un triceratops, tu sais, le mec, dinosaure, tu vois. Et je ne sais pas pourquoi, j'étais excité. Je voulais absolument le faire tomber. Toute la soirée, je l'ai embrouillé, quoi. Et bah, il m'a balancé dans une haie.
Ouais, même après sa carrière, il est resté assez solide hein, quand même, Joe Worsley.
Mais il s'entraînait comme un fou. Attends, il faisait des diagos après les entraînements, des diagonales, tu vois, il s'entraînait à la muscu et tout, vraiment un monstre. Mais je sais pas pourquoi, là, j'étais chaud patate. Je me suis dit, vas-y, tu vas voir celui-ci, l'anglais, là, machin, champion du monde. Tu vois, moi, j'étais 3 fois champion des Landes. Je vais te me le prendre en travers. Je l'ai pris en travers, il n'a pas bougé, il m'a balancé dans l'œil, mais avec bah, beaucoup de respect et d'amitié. Hein.
Est-ce que tu as le sentiment, Jean-Baptiste, que cet état d'esprit quand même qui anime aujourd'hui le groupe bordelais, parce que j'ai l'impression que ça déteint un peu sur tout le monde, on en a parlé avec Marc Ottolenghi, pour lui ça a quasiment été un crève-cœur à un moment de partir de l'UBB. Je n'ai pas envie de dire que pour ça, parce qu'il y avait aussi l'aspect sportif, mais essentiellement pour cet état d'esprit. On a eu la chance de passer un merveilleux moment avec Jefferson Poirot, et quand il parle, alors avec beaucoup plus de réserve, peut-être par son statut d'ancien international, de capitaine, mais on sent dans sa voix toute l'émotion qui l'emplit à chaque fois qu'il évoque vos potacheries, si je puis me permettre ce mot. Voilà. Mais est-ce que tu as le sentiment que finalement ça contribue aujourd'hui à l'équilibre, au bien-être et à la performance de l'UBB?
Après, franchement, là, évidemment, on passe pour des encoches, mais tu sais qu'il y en a dans chaque club, hein, et on les connaît tous. Hein. Et je ne vais pas sortir des noms, mais je pourrais en sortir dans tous les clubs.
Si, c'est bien les noms aussi.
il y en a une qui me vient à l'esprit, mais celui-là, mais je l'adore, et en plus, il est international. Et c'est ce bon vieux Vincent Rates, tu vois, par exemple. Là, c'est une sacrée encoche. Lui. La tique. La
T'es
tique.
obligé de balancer là.
Mais ouais, non, mais non, mais je peux pas balancer. Mais
Je peux en
j'ai
balancer
pas
un.
trop de dossiers,
J'en ai
mais
un.
ouais, la tique, bon client. Et
Je vais
des clients,
vous
ça, il y en a dans
Régaler
tous les clubs.
avec un Greg Mahé, messieurs. Un Greg Mahé.
Ah ouais?
Ben c'est lui d'ailleurs qui s'est retrouvé à 30 bornes de Paris et qui dormait dans une station-service à Roissy, quoi. Alors qu'il habitait à 5 minutes du Pouce. Mais j'en ai une qui est assez géniale, en
Christophe?
fait. Hein?
C'est le cousin de Christophe?
Non, pas loin. Pas loin. Non, non, non. Greg Mahé, c'est un
Non, Greg
demi-mêlée
Mahé,
qui
c'est
est
un
fier.
ancien demi-mêlée
Non,
du Stade français.
qui
Là, je
arrive au
vois
Stade
très bien qui
français.
c'est.
Écoute, le bouffon de la bande. Et en fait, il y a un mec, et je ne peux pas le citer, je ne peux pas citer ce mec justement, mais qui reste à la fin du repas le mercredi midi. Et je planque ses clés en fait dans la machine à café. Le mec arrive en retard et je vais voir ce mec-là et je lui dis, écoute, c'est Greg Mahé qui a planqué tes clés. Donc le mec prend les clés de Greg Mahé, pose un étron dans les toilettes, pose les clés de Greg Mahé, sur le truc. Donc Greg Mahé cherchait clé partout. Le lendemain, Greg Mahé, il me dit qu'est-ce qu'a fait ça et tout. Je dis, je sais qui a fait ça. Donc moi, en fait, je suis juste à balancer sur les deux mecs. J'ai dit, j'ai le code, j'ai le digicode de chez lui, je te laisse faire ce que tu veux. Il est parti poser une pêche devant la porte de ce mec-là. Bien sûr, la gardienne, le soir, voit mon pote rentrer et dire, ben voilà, il y a un monsieur qui a déféqué devant votre entrée d'appartement.
Ah,
très bien. Et à Brive, on allait dans un hôtel où, en fait, tu pouvais aller d'une chambre à l'autre, de l'extérieur, par les balcons. Je pense qu'on va tous dans ce même hôtel. Et pour se venger de Greg Mahé, ce type passe dans la chambre de Greg Mahé, prend ses crampons, pose un étron dans les crampons, ne dit rien, le fout bien dans un sac plastique. Et le lendemain après-midi, on arrive au stade. Et bien sûr, tout le monde est en train de se concentrer. Greg Mahé ouvre son sac, met ses chaussures, une odeur pestilentielle, Lombard en larmes. On est tous en larmes dans les trucs. Et le coach, quand même, le manager, c'était Nick Mallett. Donc autant te dire que là.
Il a dû voilà. Se dire, mais qu'est-ce que je fais, mais c'est affreux.
Voilà, et donc résultat, moi, ça m'est revenu parce qu'on était.
Hein, des beaux souvenirs.
Ben c'est les meilleurs en fait, mais c'est ça en fait, c'est ça qui est bon, c'est qu'en fait tu crées parce que tu sais que tout le monde est concerné dans l'histoire, tout le monde est au courant, tout le monde va balancer, et puis tu avais aussi Domi qui avait fini à poil au milieu d'un resto attaché, tu vois, ouais, c'est deux, trois anecdotes, mais c'est ça qui fait le sel du rugby, c'est pour ça que je t'ai présenté comme ça.
Vu que tu n'as pas laissé Jean-Baptiste répondre, est-ce que vous avez le sentiment tous les deux que ça contribue au bon résultat et à la bonne harmonie d'un groupe?
Mais tu peux avoir les meilleurs mecs sur un terrain, et c'est là où Max était bon dans le casting. C'est qu'il est allé chercher des mecs bonnards, un peu beaux aussi, tu vois, pour le calendrier. Bon, après, Roro, Roncero n'était pas non plus le mec le plus giron. Mais tu avais des mecs avec des personnalités différentes. Et c'est l'image du bus, comme je le raconte. Tu as les mecs du début de bus qui rigolent aux conneries du fond. Et tout le monde se prend au jeu. Et Bibi Oranou, qui ne savait pas annoncer trois mots, qui était capitaine, qui dit on va les concasser.
Bibi,
comme...
je l'ai eu en coach, mais Bibi en plus.
Mais oui, tu l'as eu en monde marchand.
Avec Titi Le Suc.
Oh là là, purée, qu'est-ce qu'on a pu rigoler à Juju Cabane, parce que les soirées avec lui et tout, il voulait tout le temps nous taper. Tout le temps.
Mmh. Bibi, dès qu'il il boit trois bières, il dégoupille.
Il commençait à boire deux bières, voilà. En plus, on lui mettait un petit peu de vodka sans qu'il le voie, tu sais, dans sa bière. Il était ravagé.
Donc, il y a les bras longs, faut faire attention quand même.
Jean-Baptiste.
Il tapait fort en plus, il était.
Il était violent, on l'appelait Olive, tu vois quand même. Il avait la gueule de la femme de Pompéi avec un corps, mon pauvre, mais des mains. Enfin, horrible. En plus, là, il a pris 40 kilos, donc autant te dire que là, le mec, c'est puissance 10, on l'appelait la biscotte. Mais oui,
il a rien demandé, le pauvre David Oranou, vous lui refaites
mais
un.
On va le raviter, Bibi.
Mais oui, c'est vrai, on a passé des bons moments.
Ça, c'est des mecs, mais c'est des mecs monstrueux dans un groupe. Et c'est ça qui est bon. Donc, oui, la question, Jean-Baptiste, oui. Pour gagner, tu es obligé d'avoir de tout et surtout de te marrer. Ah, sinon, tu vas au boulot. Il n'y a rien de pire que le mec à la 80e qui répond « on va se remettre au boulot la semaine prochaine ».
Ouais. Putain. Même si c'est vrai qu'après, par contre, quand on bosse, on est sérieux. Quoi,
bien
réellement.
Sûr, oui.
Et c'est ça aussi, mais je parle du groupe entier. Quoi. On a cette capacité à switcher de toute façon à l'entraînement. On arrive à switcher quand même sur les moments importants et on n'est pas tout le temps en train de faire les bouffons et forcément parce qu'on arrive à faire la part des choses. Mais voilà, c'est vrai que c'est comme pendant une interview, au bout d'un moment, t'es concentré, tu t'habilles, à un moment donné, t'as envie de lâcher les chevaux un petit peu. Quoi. Ça fait partie, je pense, de notre personnalité et on n'est vraiment pas les seuls à être comme ça.
Mais c'est ce que tu disais tout à l'heure aussi.
Il y en a toujours eu, il y en aura toujours. Et c'est ce qui fait aussi la beauté de notre sport. Et tu vois, c'est bien aussi de pouvoir avoir des groupes larges en termes de profil et de personnalité. Ouais.
C'est peut-être la force de Christophe Furios, non, Jean-Baptiste, parce que finalement, il vous laisse cet espace de liberté parce qu'il a bien compris que c'était dans votre nature profonde, à toi, à Nantes, et peut-être à d'autres au sein de l'effectif. Et c'est ce qui vous permet... Avec peut-être parfois un petit peu de recadrage, mais c'est peut-être ce qui vous permet aussi de vous épanouir pleinement sur le terrain tous ensemble. Hein. Et c'est peut-être sa force à Christophe là-dessus. Hein.
Oui, non, mais complètement. Complètement. En plus, c'est un très bon client, hein, Christophe. Hein. C'est un très, très bon client.
Comme on dit dans les médias, effectivement, c'est un très bon client. Il a toujours le sens de la formule et le bon mot pour faire la chute et l'entrée et la sortie du papier.
Oui, non, c'est sûr. Après, c'est vrai que bon, il est tellement engagé, investi aussi dans ce qu'il fait que voilà, nous, on ne peut qu'être autant engagé dans tout ça, quoi. Mais c'est vrai que bon, il y a des moments où voilà, on se fait des petits trucs de déconnade. On essaye un peu de le titiller. Donc c'est pareil, il distribue des brins comme les anciens. Tu vois, tu y passes à côté, il te fout un brin. Mais c'est amical. Et ça prouve aussi que bon, qu'il aime bien pas trop être charrié, mais il aime bien charrier en tout cas. Non, c'est vrai que bon, en ce moment, tu vois, ça gagne, on travaille dur, on travaille bien. Donc, il en profite aussi pour nous mettre deux, trois pièces. Et tu vois, là, quand il m'a vu tout à l'heure à l'entraînement avec mon bandeau et mon oreille en sang, si tu veux, il était fendu, quoi. Ça le fait beaucoup rire. Surtout qu'il adore ce genre. Il sait très bien que, tu vois, je suis un mec, un joueur de cette météo. Quand tu as le nuage au-dessus du crâne, qu'il pleut, mouillé, que tu as ça debout sous les crampons, voilà, il sait que c'est le type d'entraînement que j'adore. Et tu vois, il était content que je sorte avec 3 points de suture. Et il m'a félicité.
On va pas te retenir encore très très longtemps, mais on a encore deux trois petites questions à te
Oh,
poser,
c'est bien,
Jean-Baptiste.
c'est bien, hein.
D'abord, est-ce que tu as le sentiment que parfois le rugby, et là je fais appel à ton côté troublion, mais est-ce que tu as le sentiment que parfois le rugby se prend trop au sérieux?
En général, tu parles?
Oui, globalement, est-ce que le rugby, justement, l'essence de ce sport, c'est qu'un sport universitaire, donc probablement un peu potache, a toujours eu justement ces anecdotes comme Raph en racontait au Stade Français, comme vous en vivez avec l'UBB. Tu dis qu'il y en a dans tous les clubs. Aujourd'hui, est-ce que ce sport a su conserver son ADN quelque part de sport d'étudiant et de dans la connerie, hein, employons les mots qu'il faut pour Et est-ce que finalement, ce n'est pas la médiatisation qui a fait que voilà, les clubs contrôlent un peu plus? Qu'est-ce que tu en penses de ce point de vue-là?
Ben, si tu veux, ouais, alors il y a plusieurs choses. Déjà, dans l'évolution du rugby, il y aura toujours ce que je disais, même les générations qui montent, les jeunes, tu vois, même en équipe de France, il y a toujours des mecs qui ont cet état d'esprit, tu vois, d'arriver à fédérer le groupe et à animer aussi le groupe. Il y en a des mecs comme ça, il y en aura toujours, je l'espère vraiment. Ce qui a changé, et je pense que Raph dira pas le contraire, c'est que aujourd'hui, tu fais un truc et tu peux, tu fais un truc ouvert un peu au public. Je te dis, en tout cas à la con, on fait une soirée écossaise à Bordeaux, dans un endroit qui est ouvert au public. Ben, n'importe quelle personne peut te filmer et ça peut être sur les réseaux de suite, tu vois, en train de faire le con.
Ce qui n'existait pas à l'époque de Raph, par
Et
exemple.
ça n'existait pas, mais même, tu vois, quand j'ai commencé tout jeune, tu vois. Et donc c'est vrai que ben voilà, tu as quand même une image à avoir parce que tu es quand même un joueur de haut niveau et tu peux
Oui,
pas.
les clubs, ils sont sensibles et vous briefent, hein, souvent.
Ouais. Bon, après c'est vrai que tu l'apprends aussi en grandissant, mais maintenant l'information va tellement vite et voilà, c'est vrai que ça a un petit peu évolué là-dessus, donc il faut faire attention. L'époque de Raph, ça faisait n'importe quoi, c'était des fous, quoi.
Oui, mais ça restait dans le. Non, oui, ça restait dans le. Comme je disais, tout ce qui est dans le rugby reste dans le rugby. Aujourd'hui, c'est plus d'actualité. Ça ne
Et
reste
puis en
pas,
plus,
ça ne
c'était à
reste plus.
Paris, dans le plus grand anonymat, entre guillemets.
Ben oui,
Ouais,
parce qu'à
voilà, à
Paris,
Paris,
on
tu restes
était.
quand même.
Le seul endroit où
Ouais.
tu es connu, c'était dans le Marais, quoi, avec les calendriers, quoi, parce que tout le monde. On descend deux
Un
années
petit peu plus au
consécutives.
crime aussi, avec la
Mais
guille.
ouais,
Au
léger
crime.
avec le chez Castel et le 41, mais après pour d'autres, mais ça, j'y suis jamais allé. Donc on descend quand même deux fois le bouclier sur les Champs-Élysées, sur une Volvo décapotable qui était sponsor du club. Et toutes les des Chinois qui nous regardaient, des Américains, même des Français, ils disent, mais qu'est-ce que vous branlez là? C'est quoi votre
Ouais,
truc là?
ils
C'est quoi ce plateau là? Il y a des fruits de mer, mais des
se
trucs hallucinants. Les gens ne le savaient pas, donc ça te laisse un anonymat. Mais c'est vrai que les réseaux sociaux, c'est Miguel Fernandez qu'on a reçu en début d'année, qui est le président des syndicats des agents de sportifs, qui nous expliquait qu'aujourd'hui on ne peut plus faire comme avant, et tant mieux ou tant pis. Mais donc ça change un peu aussi les mentalités. Et ce qui est dommage par rapport au public, c'est la question que je voulais te poser. C'est qu'il y a un rapport au public qui est aussi un petit peu biaisé. Avant, c'était dans les journaux. Tu passais sur France 2 ou sur Canal avec le petit journal de Lagui ou avec Toc Toc. Il y a eu Toc Toc jusqu'à il n'y a pas très longtemps, hein, Mathieu Glavany, Thomas Glavany. Mais il y a moins ce côté troublant. Et je pense que vous avez repris le lead là-dessus, vous, avec vos conneries. Et ça peut en inspirer d'autres d'oser, quoi. Et pourtant, vous avez 32 piges. Et en général, les conneries que vous faites à 32, normalement, on les fait à 20 ans. Donc heureusement qu'il y a cette passation aussi pour les jeunes, dire putain, vous ne prenez pas trop au sérieux parce que vous allez vous faire chier. Même si vous emploîtrez 30 ou 40 000 balles par mois, vous allez vous faire chier. Hein.
Ouais,
Mais
minimum.
oui, hein?
Non, mais oui, non, par rapport à ça, il faut forcément qu'il ne faut pas que ça se perde. Ça fait partie de notre sport, comme on en parlait tout à l'heure. Et c'est cette mentalité. Et tu vois, il y a d'autres sports, pour parler, tu vois, avec, avec certains Girondins, tu vois, avec qui on s'entend bien. Ils sont envieux de ça. Ils nous envient réellement de ce qu'on fait, mais pas perso, mais tu vois, même...
Tu parles des joueurs de foot, là, Jean-Baptiste, hein, c'est ça?
Ouais. Par rapport à ce qu'on fait, tu vois, en termes de cohésion, tu vois, on est tout le temps... je prends l'exemple chez nous, mais il y en a dans tous les autres clubs. On est tout le temps essayé d'en train d'organiser des trucs en famille, d'organiser des trucs entre joueurs, avec le staff, mélanger un petit peu ça pour justement vivre des moments de cohésion qui sont importants pour le rugby, quoi, pour nous.
Mais comme tu dis, pour le rugby, parce qu'à la différence d'autres sports, il y a peut-être le hand qui s'en rapproche et le hockey, ouais, c'est un sport de combat. Tu as la guerre, tu vois, bah, la guerre, toute proportion gardée, mais tu vas à la guerre, donc tu sais que tu es obligé de vulgairement poser tes couilles ou ta couille dans mon cas. Tu es obligé d'y aller, quoi. Tu es obligé de t'y filer. Non, mais c'est vrai, tu es obligé de. Sinon, tu passes pour un peintre et tu es recraché par le groupe, puis j'en ai rarement vu des mecs qui s'échappaient. Enfin, donc c'est cette notion aussi, tu es obligé autour de créer ça, puis de voilà, que si tes femmes s'entendent bien, c'est cool, parce que tu as une vie sociale aussi à côté. Sinon, tu es dans un microcosme. Hein. Le rugby, être joueur de rugby, ça devient comme être joueur de foot. Il y a un microcosme, parce qu'il y a l'image aussi autour. Il y a un rapport aussi aux supporters qui est un peu délicat, parce que les gens ne te voient que dans la représentation. Et il faut que tu fasses gaffe aussi au côté, troublion, comme on le dit. Donc, c'est tout un équilibre quand même à trouver. Et puis, c'est en faisant de la merde aussi, des conneries et des erreurs qu'on apprend. Mais force est de constater qu'on apprend encore à 32 ans et qu'on a la capacité, l'audace, en tout cas pour vous, de garder le cap sur la connerie, et ça, c'est important, quoi.
Mais surtout, en plus, tu vois, juste pour en finir sur ça, c'est que c'est... On a des retours de tu vois, il y avait un monde fou après le match contre Toulouse, et il y a des gens qui nous parlent encore de ce qu'on a fait au confinement, tu vois, quand on avait eu cette idée de faire, tu sais, ils appellent ça un takeover, là, de prendre l'application de l'UBB et de faire, tu vois, de dire, ben voilà, on va faire notre journée, tu vas faire ta journée avec Marco Tolègue, avec Alexandre Pellissier à l'époque, qui nous avait fait découvrir l'exploitation agricole de ses parents, tu vois, mais des trucs. Et en fait, on ne s'est pas pris au sérieux, mais ça a buzzé incroyablement. Nance, on avait organisé un planning, et Nance, je lui avais dit, écoute, je te file 10 jours. Tu auras 2 jours pour toi, un week-end entier. Il a fait, il n'y a pas un truc de sérieux dans ce qu'il a fait. Et ça, lui, là, vraiment, il a franchi un cap là-dedans. Et les gens ont juste adoré, en plus. Tu vois, le timing était juste trop bien.
Le timing, ils nous en parlent encore. Tu parles de timing, et le timing est vraiment super. Enfin, parce que, je sais pas, est-ce qu'on voit là, si je me calque.
Faut que tu t'avances encore un peu.
Ouais, d'accord.
Là, d'accord. Donc, là. Vous voyez bien ou pas ça, ouais,
ouais, ouais, ouais.
Ok, et je vais juste balancer la vidéo, mais qui est assez cool, quoi.
Ouais, putain, quel...
Bon, ça, c'est ton acolyte, hein, je... tu nous raconteras, parce que c'est marqué dessus, mais...
Ouais, bah écoute, j'ai eu cette idée débile que de le mettre dans mon squad des témoins de mariage. Et voilà, j'ai fait cette erreur-là. Et parce que vu qu'il a une idée débile à la minute, si tu veux, là, pour le coup, ben, il m'avait organisé tout simplement un faux départ de mon enterrement de jeune garçon. Et il m'avait bandé les yeux en plein centre-ville. On était allé dans un magasin déguisé en Jasmine d'Aladin, là. Et elle me dit, ça y est, on part et tout, genre, on part. On avait fait le tour de la place d'Ansouti, la place, les allées tournies, tu vois, c'est les allées à Bordeaux, on avait dû faire 20 tours en voiture, les yeux bandés, musique, voilà. Et il me disait, c'est énorme, il me tenait la main, allez, ma chère. Et puis au final, il m'a mis sur un fauteuil, place de la Bourse, là où il y a le plus de monde à Bordeaux, vraiment au miroir d'eau. Et en me faisant croire que, enfin, moi je pensais que j'allais décoller, là, que j'étais à l'aéroport. Et il passait, tu sais, il me serrait la main, mais de façon différente, quoi, tu vois, en croyant que c'était mes potes. Tu vois, il me serrait la main un peu forte, même moi, le gros tchèque, en me disant mon poulet, moi j'entendais rien, tu vois, j'étais trop excité, je te l'ai raté, je lui mettais un peu des coups de poing. Et en fait, il m'a laissé là. Il m'a laissé là, et puis à un moment donné, j'étais là, mais qu'est-ce que c'est long, quoi, je me caillais. C'était en plus une heure de pointe, il y avait du monde partout. Puis il y a une dame qui est venue me dire, m'a enlevé le masque, les écouteurs. Et je dis oui. Elle me fait, non, on m'a juste dit de vous enlever le masque. Et en fait, j'avais une boîte devant mes pieds, une boîte de Smecta, avec un mot. Je devais tenir une pancarte et sur ma pancarte, il y avait marqué faux départ, démerde-toi pour rentrer chez toi. Voilà.
Il n'y a rien eu après ou non? C'est
Hein?
énorme, mais il n'y a rien eu après. Après, rentrer chez toi
Rien du tout. Je suis rentré en tram, déguisé en jasmine. Tout le monde me regardait. Et je suis rentré chez moi. Et
Oh putain.
j'avais, si, il m'avait laissé les clés de chez moi quand même. Il m'avait laissé une clé de chez moi.
Grand prince.
Grand
Ah,
prêtre,
c'est magique.
seigneur.
Allez, on va bientôt conclure, messieurs. Mais je crois que Kraft avait une dernière requête à formuler auprès de Jean-Baptiste, notamment pour une imitation qui vit, selon plusieurs personnes proches de toi, une imitation que tu maîtrises à la perfection. Raph, tu livres le secret ou...
Ah ben non, vas-y, écoute, parce que là, je c'était Jefferson Poirot, non?
Ouais, je crois que c'est Jefferson qui nous l'a raconté. Il paraît que tu as un accent manouche assez fabuleux. Est-ce que tu serais susceptible
Pour
de nous raconter
conclure,
une anecdote avec ce bel accent pour conclure? Parce
mais non,
qu'attends,
mais attends, parce que pour l'anecdote, Jefferson m'envoie le truc et je sais pas si c'est du lard ou du cochon. Je me suis dit, je vais quand même pas faire. C'est d'ailleurs pour ça, et je vous le dis en direct, les gars. L'anecdote, je l'ai, mais je préférais que ce soit Arnaud qui la dise parce que je me suis dit, si je balance le truc de Manouche, alors que c'est pas vrai du tout, et que tu nous avais dit juste avant, mais tu es une famille hyper catholique, en fait, tout s'est embrouillé dans ma tête. Heureusement que tu as repris le lit, parce que je sais. Donc, t'es pas du tout d'origine Manouche. Enfin,
non, je ne suis
Non.
pas du tout d'origine manouche, mais l'histoire, je vous la fais brève. En fait, j'arrive à Mont-de-Marsan, j'ai 10 ans. J'avais vécu un peu à Pamiers, je suis natif des Pyrénées. Mon père a été amené à bouger. Donc voilà, j'avais vécu un peu à Pamiers. À Pamiers, c'est une ville militaire. Et j'étais à l'école Notre-Dame, qui avec les militaires, énorme école et tout ça. Et là, j'arrive à Mont-de-Marsan, dans l'école de quartier en CM2. Et en fait, c'est l'école un peu là où il y a les manouches, parce qu'il y a le camp des manouches qui est à côté. Donc c'est vrai que le premier jour, j'étais là, ça m'avait un peu impressionné, quoi. Je sortais de l'école privée. En fait, j'ai vécu une année incroyable. Je me suis fait pote avec manouche, Rudy. Mon ami Rudy, avec qui je suis toujours en contact, et que je fais travailler un petit peu dans le bâtiment. Il travaille bien, il travaille bien. Et du coup, en fait, ben voilà, je suis allé vivre dans le camp, et il habitait pas très loin de chez moi. Donc, ben, j'ai vécu une année incroyable. Je dormais chez lui. J'ai appris la chasse, la pêche, le braconnage, tu vois, des trucs trop bien, et la vie en caravane et la vie des manouches réellement, quoi. Donc voilà, sans faire aucune offense aux manouches, j'ai gardé quelques expressions manouches.
Mais tu n'oses pas le faire, en tout cas.
Non, mais si je le faisais, mon Seigneur, je vais avoir des problèmes, que j'ai pas envie qu'ils me crèvent les pneus de ma campagne, que j'ai acheté une caravane derrière, j'ai l'attelage, j'ai tout, j'ai tout. Ils vont tout niquer, qu'est-ce que tu veux que je fasse?
Bon,
Oh,
allez, je crois
bordel, non, mais
qu'on va
merci.
conclure. On va
Merci.
conclure sur cette imitation. Jean-Baptiste, un grand, grand merci. On souhaite évidemment le meilleur à l'UBB pour cette fin de saison. Continuez à nous régaler comme vous le faites. Raph, le mot de la fin. On dit souvent happy wife, happy life, happy player, happy team aussi, non?
Ouais, et puis à petit titre, en tout cas, c'est tout ce qu'on va souhaiter à l'UBB pour cette année, parce qu'une fin de saison qui avait été compliquée, on le rappelle, avec le Covid, là, est-ce que ça repart ou pas? Bah, je te le souhaite pas et je vous le souhaite pas, mais bon, en tout cas, je trouve que l'UBB aujourd'hui est leader de top 14 et c'est mérité. Et puis avec des mecs comme ça, moi, comme je te dis, hein, titulaire au fond à droite, le cul sur la vitre. Donc je me suis bien retrouvé pendant cette émission, donc je tenais à te remercier. On a réussi à la faire, on devait la faire il y a un mois, on a réussi à la faire aujourd'hui. Je suis ravi Jean-Baptiste et je souhaite de te rencontrer parce qu'on ne s'est jamais vu de visu. Je souhaite de te rencontrer un jour et de trinquer avec toi à l'amitié. Et puis ben, voilà, que je parle Picard et que tu parles Manouche. Et puis on se filmera et puis on balancera ça à Arnaud. Tiens, c'est cool.
Allez, messieurs, un grand merci à tous les deux. Poulain Raphu, c'est
Merci.
terminé pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure, sur Eurosport et sur rugbyrama.fr.
Do you ever feel like your brain is on overdrive and your mind is constantly racing? The plans, worries, and to-do lists are never ending. Calm can help your mind take a break from the noise by softening anxiety symptoms in the moment and helping you cope with day-to-day stressors. Calm is the number one app for sleep and meditation, giving you the power to calm your mind and change your life. For listeners of the show, Calm is offering an exclusive offer of 40% off a Calm premium subscription at calm.com/stressless. Go to calm.com/stressless for 40% off unlimited access to Calm's entire library. That's calm.com/stressless.